vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et malgré ses hauts et bas de température, il reste fidèle, imperturbable. Philippe Munier, notre ami du jardin avec nous en ce dimanche encore. Bonjour Philippe.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Alors c'est vrai qu'on le dit, c'est des grosses amplitudes de température. Hier, on était dans les 30 degrés, voire plus. Aujourd'hui, on est à peine au-dessus des 20 degrés. Ça a des conséquences pour nos jardins, pour nos plantes. On ne sait pas s'il faut les rentrer, s'il faut les couver, s'il faut les arroser. Faut laisser la nature faire.
Bah, ça dépend pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, les plantes, quand il a fait chaud hier, elles se sont mises à évaporer comme des folles pour essayer de survivre, en tout cas de gérer correctement leur eau. Donc, il faut les arroser dans ces cas-là. Par contre, dès que la température redescend, elles se mettent au frais et elles profitent de cette fraîcheur. Et dans ces cas-là, l'arrosage n'est pas forcément indispensable. Par contre, il faut toujours surveiller pour les plantes en pot, surtout, particulièrement, parce que c'est le pot, je rappelle, ce qui est le pire. Pour la plante en pot, c'est le pot qui chauffe. Donc, de plus en plus, essayez de remplacer vos pots. Alors, les pots en terre bien épaisse, c'est pas mal. Hein, les pots en plastique, ça chauffe très vite. Alors, et par contre, on trouve maintenant des pots à double paroi, ce qui fait que l'espace d'air au milieu fait isolation. Ouais. Donc, il chauffe beaucoup moins vite. Et c'est plutôt des pots comme ça qu'il faut préférer sur la terrasse, de façon à ce que les plantes ne cuisent pas par la racine.
Voilà donc les conseils, justement. Avec les grosses chaleurs, vos questions, et ben c'est tout de suite au 02 99 67 35 35.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et on va aller sur Saint-Brieuc, où il a fait une journée assez chaude, je crois, hier. Et puis aujourd'hui, la température a baissé. Et c'est Brigitte qui est avec nous. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour Daniel. Bonjour Philippe. Bon. Oui, on a eu un petit orage avec de la grêle ce matin.
Ah, bon, ça a rafraîchi quand même l'atmosphère, hein, c'est bien. Oui. Alors, les pieds de tomates, qu'est-ce qui se passe?
Alors Philippe, mon mari a mis entre 20 et 25 pieds de tomates dans une serre. Et hier, nous avons eu la désagréable surprise de voir une multitude de pucerons blancs sur les pieds de tomates, sur les feuilles.
Et alors, on ne sait pas trop comment...
Et alors, on a essayé avec le Puranprel, avec un petit peu de savon noir, mais est-ce que dans la serre, c'est suffisant? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux du bicarbonate de soude? Je ne sais pas, j'attends vos conseils.
Le verdict.
Ah non. Faut pas se tromper de produit. Le bicarbonate ou la prêle, ce sont des fongicides. Donc, ça tue des champignons. Et là, il s'agit pas de champignons, il s'agit de pucerons. Donc, il faut trouver des insecticides ou au moins, au minimum, des insectifuges. Donc, les insecticides, eh bien, c'est l'eau savonneuse. Donc, du coup, le purin de prêle et le savon noir, c'était pas mal. Hein, ça faisait une protection contre l'éventuel mildiou. Et le savon noir, ça faisait le côté insecticide. C'était pas si mal que ça, en fait. Donc, soit vous continuez comme ça si vous avez encore la prêle, hein, et puis sinon, tout simplement de l'eau savonneuse, ça suffit largement. Par contre, faut faire très attention, s'ils sont arrivés, ces pucerons, c'est pas un hasard, c'est parce que justement, il devait faire chaud dans la serre, il a peut-être même fait très chaud, et donc les plantes ont évaporé, comme je le disais tout à l'heure, et du coup, la sève est plus concentrée, donc elle est plus sucrée, donc elle attire plus les pucerons, donc les pucerons arrivent, parce que vraiment, là, il y a du bon miam miam. Donc il faut faire attention à bien ventiler la serre, hein. Ça, c'est très important, le maintien à une température, on va dire, supportable. C'est-à-dire pour les tomates, c'est grosso modo 30 degrés. Hein. Au-delà de 30 degrés, elles commencent à souffrir. Jusqu'à 30 degrés, la vie est belle, tout se passe bien. C'est comme à la maison, si je puis dire, et ça va. Donc, il faut vraiment ventiler, il faut faire attention aux heures les plus chaudes, à ce qu'il y ait une bonne ventilation, de façon à ce que la plante ne souffre pas, ne se mette pas à trop évaporer, donc à faire du sirop à pucerons, hein, qui attire trop les pucerons, et du coup tout ira mieux.
Et ben voilà, donc Brigitte, voilà, bonne journée, puis continuez donc avec le savon noir. L'effet n'est pas immédiat, hein, faut faire plusieurs fois pour être sûr que ça marche. Nous partons à Vitré avec Serge, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Daniel, bonjour Philippe.
Alors, allez-y.
Oui, je voudrais savoir si l'on doit couper les feuilles, un peu de feuilles, aux tomates ou pas du tout.
Ah, pour les faire mûrir, ça, peut-être, non,
Non, mais moi, je vois des gens qui coupent les comment
les gourmands, feuilles. Les gourmands, c'est ça, non, c'est un peu ce qu'on appelle.
Non, toutes les feuilles.
Toutes les feuilles, bon.
Oui.
Alors, on va poser la question à Philippe.
Alors, il faut se rappeler quand même que l'usine à sève, c'est la feuille. C'est dans la feuille que la sève brute qui monte, qui vient du sol via les racines qui rapportent de l'eau et des sels minéraux, elle devient de la sève élaborée, donc de la bonne sève bien nutritive, que après passage dans les feuilles, action de la photosynthèse, et là, ça fait de la sève élaborée. Si on enlève les feuilles, il n'y a plus de sève. Donc, la plante n'est plus nourrie. Donc, elle fait ce qu'elle peut avec ce qui lui reste de sève, et du coup, ça arrête la croissance des tomates. Effectivement, éventuellement, ça accélère leur maturation, mais ça ça n'aide pas à avoir des tomates. Et là, on est dans une période où elles sont en croissance, elles ne sont pas encore vraiment en production. Elles commencent pour certaines à produire, celles qui ont été plantées de bonne heure, mais elles sont surtout en croissance pour continuer à donner jusqu'à souvent fin octobre. Donc, couper les feuilles maintenant, c'est une hérésie. Donc, ne coupez pas les feuilles. Enlevez une feuille qui était abîmée, souvent les feuilles du bas, parce qu'on a peut-être un petit peu au début arrosé au jet, qu'il y a eu des éclaboussures, il y a 2-3 champignons qui sont installés. Moi, souvent, c'est ce qu'on fait, hein. On enlève 2-3 feuilles en bas, une feuille qui est abîmée pour une raison XY, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, pour éviter que ça soit quelque chose qui contamine, on va la supprimer aussi, mais c'est vraiment l'exception, c'est pas le cas général, il faut au maximum garder les feuilles, parce que d'abord elles font de l'ombre aux fruits, et donc elles leur permettent de bien grossir, et puis d'autre part parce qu'elles fabriquent de la bonne sève qui fait des bons gros fruits.
Et voilà donc Serge, les explications. Je prolonge la question, même au moment où les tomates sont mûres et qu'elles vont arrêter de produire, ça ne sert à rien non plus d'enlever les feuilles. Philippe ? Je disais, si c'est en revanche au moment de la récolte et que les pieds ne vont plus produire, que tomates, est-ce que là on peut
tout
enlever?
Tout à fait. Oui. Ah oui, mais là on est en septembre, début octobre.
Voilà, c'est ça, voilà. Mais pas avant.
C'est vraiment au moment où toute la plante commence à fatiguer, parce que la tomate c'est une annuelle, donc au bout de la fin de son cycle, elle commence à fatiguer, que les feuilles commencent à jaunir, effectivement on les enlève, et ça va accélérer la maturation des dernières tomates.
Voilà, mais pas avant, on n'enlève pas les feuilles avant. Voilà. Merci Serge pour cette question. On va dans les Côtes d'Armor à Trégueux maintenant avec Monique. Bonjour.
Bonjour. J'ai un oranger en pot qui est couvert de fleurs actuellement, mais il est également couvert de pucerons verts. Alors j'ai un ami qui m'a conseillé de faire une dilution pour 1 litre d'eau de 2 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool et de faire ça tous les jours. Bon, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Alors, Philippe.
Alors, contre le puceron, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure là pour les tomates, l'idéal, c'est quand même le savon noir, parce que c'est vraiment un insecticide très efficace et qui coûte pas cher et qui pollue pas. Donc c'est quand même pas mal. Ce qui n'empêche qu'il faut pas en abuser non plus. Hein. Donc en espace confiné ça va, mais en foutre partout dans la nature c'est pas une bonne idée. Donc l'eau savonneuse c'est bien. Il faut vraiment d'abord si vous voulez avoir des belles oranges et un bel oranger, il faut absolument tuer ces pucerons parce qu'ils peuvent vraiment faire beaucoup de mal à une agrume en très peu de temps, hein, en 8-10 jours, ça peut rincer une plante. Donc, il faut absolument les oxyre. Vous faites une préparation, alors là, pour le coup, de 2 à 3 cuillères à soupe de savon noir le plus pur possible, hein, dans 1 litre d'eau. En général, on fait ça à l'eau tiède pour que le savon noir se dilue bien. On laisse refroidir un petit peu, évidemment, avant de mettre sur les plantes. Et là, vous pulvérisez le matin à la fraîche, 3 matins de suite minimum, en faisant bien le dessous des feuilles, parce que c'est surtout là qu'ils sont cachés, puis le dessus. Et normalement, vous devriez les voir mourir, hein, les petites bêtes. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous rincez abondamment pour enlever le savon qui pourrait aussi asphyxier les feuilles de l'oranger, et c'est reparti pour un second tour. Mais là aussi, il faut faire attention à ces notions d'excès de température. Les orangers sont originaires des zones tropicales, mais un oranger, que si on peut le protéger des heures les plus chaudes avec juste un petit voilage ou simplement un arbre un peu lointain qui fait un petit peu d'ombre à ce moment-là, et ça leur va vraiment tout à fait bien. C'est ce qu'ils préfèrent. Du soleil le matin et le soir, oui, et mais en plein midi, en avoir un petit peu moins, ça leur pose pas de problème, au contraire, et ça évite là aussi de faire évaporer, donc de concentrer la sève, donc d'attirer les pucerons et les cochenilles.
Voilà, donc on sait que l'apparition de ces pucerons là est due notamment à la chaleur sur certaines plantes, donc voilà, on veille au grain. Merci Monique, bonne journée à Trégueux, on fait une pause et puis ensuite on ira accueillir Jeanne-Michel à Saint-Malo, Jacques à Dinard et Jacqueline à Saint-Gilles qui attendent impatiemment.
France Bleu Armorique. France
Bleu. Et pour l'instant, Sting, chanteur de Police, avec Englishman in New York. Il est bien ce garçon. D'ailleurs, il sera pour quelques dates ou une date ou deux en France. Bon, faut pas rater ce rendez-vous parce que c'est quand même un grand personnage, très très sympathique en plus.
Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Illusion.
Englishman in New York. Sting sur France Bleu Armorique. Il y a un nouvel album d'ailleurs avec la reprise de tous ses succès. Je vous invite à vous le procurer car c'est un petit bijou.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Revenons au jardin avec Jeanne Michel à Saint-Malo. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Daniel. Oui, petite question d'ordre de propreté d'un jardin. Est-ce que je peux tailler les tiges d'iris, d'arôme et de dragon, l'épée du dragon?
Les tailler maintenant, par exemple, non?
Oui, les tailler maintenant, oui, parce qu'elles sont complètement défleuries, elles commencent à dessécher.
Bon, bah, on pose la question.
Oui, il n'y a pas de problème. Hein, tout
il n'y a pas de souci, je ne coupe pas les feuilles, bien sûr, mais je ne coupe que les tiges.
Que les tiges, oui, il n'y a pas de souci, allez-y.
Il n'y a pas de souci.
Voilà, donc il n'y a aucune conséquence.
Je rappelle quand même que la notion de propreté dans un jardin n'est pas tout à fait la même que dans une maison. Hein, donc, faire propre dans un jardin...
Oui, c'est pas très joli, hein, ça.
Voilà, mais on n'oublie pas que ce ne sont pas des déchets que vous enlevez, ce sont des produits pour faire du compost.
Compost, voilà, ça va aller au compost.
Eh bien, voilà. Super, ben voilà, vous avez tout compris, vous avez bien raison de poser la question tout de même, Jeanne Michel.
Je ne fais rien sans poser des questions quand j'ai des doutes.
Surtout à Philippe.
Ça commence à être une habitude maintenant.
Eh ben c'est très bien. On vous souhaite de passer un très bon week-end
et
à Saint-Malo.
Aussi,
merci.
Avec moins de chaleur, je crois que ça ira beaucoup mieux pour tout le monde.
Tout à fait. Bonne journée. Nous partons juste à côté, de l'autre côté de la Rance. Il y a Dinard et c'est Jacques qui nous attend. Bonjour Jacques.
Non, c'est René plus exactement. Jacques n'est pas à l'appareil.
Ah ben c'est René. Alors bonjour René.
C'est madame.
Bonjour
donc,
madame.
Bonjour tout d'abord, et puis je voulais savoir si vous aviez une solution pour éloigner un blaireau qui vient toutes les nuits dans mon terrain, faire des trous dans la pelouse, manger les fraises, les cerises tombées, laisser des crottes dans des trous aussi, me faire presque des trous dans le grillage pour passer, il est diabolique.
Mettez-lui un extrait de Lara Fabian qui chante fort, il va partir, non?
Ça ne marche pas.
Bon, c'est ce que c'est dangereux, d'abord le mulot pour le jardin.
Non, c'est pas le mulot, c'est un blaireau.
Le blaireau.
Ah oui, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus gros.
Ah oui. Alors je dirais bien, faut l'empêcher de venir en lui donnant pas à manger, mais bon, c'est vrai que fraises, voilà.
Oui, j'essaie de ramasser, mais des fois ça tombe la nuit ou les oiseaux sont là avant moi et puis ils font tomber les fruits.
Et puis tous les petits vers qu'il y a dans la pelouse, ça vous pouvez pas les enlever et c'est qui vient chercher. Ça c'est les cerises et les fraises, c'est le dessert hein, ou l'apéro, ça dépend. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est les bonnes protéines des vers qui sont en train de manger votre pelouse. Donc quelque part, il vient vous aider. Là aussi, hein, je dis souvent que la taupe a des méthodes de travail un petit peu brouillonnes. Le blaireau est encore pire quand même. Mais par contre, au bout du bout, si je puis dire, il a quand même enlevé des bestioles qui mangeaient votre jardin par la racine. Hein. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille faire ça ailleurs. Et dans ces conditions-là, en fait, le mieux, c'est de l'empêcher de rentrer. Et là, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, la seule solution que je connaisse, c'est l'électricité. C'est la clôture électrique, ils ne supportent pas ça. Pas plus que les renards, pas plus que les chevreuils, toutes ces bestioles, toute la faune sauvage est très très sensible à l'électricité. Et donc quand il y a une clôture électrique dans un coin, bah, ils s'écartent et vont ailleurs. Donc c'est vraiment ce qui marche le mieux. Tous les répulsifs, les cheveux qu'on attache, les je ne sais pas quoi, les espèces d'huile de pétrole sur des fils qu'on met, etc. Tout ça, c'est intense, ça fonctionne. Hein. Je ne dirais pas que ça ne fonctionne pas, parce que dans certains cas, ça marche très bien, mais ça marche... La bestiole s'y habitue. Alors l'électricité s'y habitue pas.
Voilà, donc ça c'est la solution idéale. C'est vrai que bon, il faudrait voir une petite clôture si la surface est pas très grande, d'investir ou peut-être de se faire prêter pendant quelque temps le temps de l'éloigner. Merci pour cette question, René. Et puis bah on espère que l'ami blaireau ira ailleurs. Jacqueline à Saint-Gilles, bonjour.
Au revoir.
Au revoir, bonjour. Bonjour Jacqueline. Jacqueline. Bon, je crois que Jacqueline est en train de bavarder avec quelqu'un. Je pense qu'elle a une question sur les fourmis. Si Jacqueline n'est pas là, on va retrouver Claudine. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin? Un petit incident, voilà, dans les lignes. Claudine.
Oui.
Bonjour. Ah ben voilà, vous êtes avec nous, Claudine. Ravie de vous recevoir. Claudine, à Mort-de-Bretagne, qu'est-ce qui vous arrive?
Oui, vous allez rire certainement. Oui, moi, je vais me couper les cheveux. Je suis une coiffeuse et puis la coiffeuse garde les cheveux pour certains clients. Et ces cheveux-là, donc, servent d'engrais pour le jardin. Et qu'en pensez-vous?
Ah, est-ce que les cheveux seraient un engrais pour le jardin? Voilà une question. Oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on dit quelquefois. Est-ce que c'est vrai, Philippe?
Oui, tout à fait. Hein. Que ce soit les cheveux, que ce soit les plumes de bestioles, que ce soit tout ça, ça contient des protéines et des protéines soufrées en plus. Donc le soufre, on sait que dans le sol, ça a des effets plutôt pas inintéressants. Et là, en plus, c'est du soufre biologique, hein, du soufre organique, et donc il se mélange dans le sol tout à fait correctement. Alors c'est typiquement le genre de produit dont il ne faut pas abuser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas engraisser un jardin que avec ça. Par contre, un apport une fois par an d'un compost enrichi en cheveux dégradés ou en plumes dégradées, c'est tout à fait intéressant. Oui, c'est plutôt une bonne idée. Et là encore, ça permet de recycler des produits. Donc, c'est toujours bien. Hein, donc, de ramener à la terre ce qui vient de la terre, parce que quelque part, ça vient de la terre, le cheveu. Hein, ça a été sélectionné par nous, mais c'est bien avec ce qu'on a mangé qui venait de la terre, qu'ils ont été fabriqués. Donc, c'est très bien. C'est une bonne idée. Mais je vous dis, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas en abuser. On fait un compost avec une partie spécifique, un silo spécifique avec du cheveu mélangé avec tout le reste. Et on ne fera qu'un apport par an dans le jardin avec ce type de produit parce que effectivement il y a beaucoup de soufre dedans entre autres et qu'il faut pas en abuser.
Ouais. Et j'ai mon collaborateur Jean-François Troadec qui réalise cette émission qui dit j'ai dû abuser, j'ai dû en donner trop parce que j'en ai plus des cheveux. Donc peut-être que c'est pour ça.
Ça doit être ça. Ça doit être ça.
Ça,
je pense.
Doit être ça. Merci en tout cas pour cette question. Alors est-ce qu'on a retrouvé Jacqueline? Non, Jacqueline, décidément.
Oui, je suis là.
Ah on vous appelle depuis 10 minutes, Jacqueline.
Oui, je suis là, j'attends toujours.
Mais nous aussi, on vous attend, Jacqueline.
Alors, bonjour.
C'est à vous. Bonjour.
Alors voilà, j'ai un souci avec des fourmis. Elles envahissent mes rosiers qui sont en pot.
Puis il faut couper la radio aussi derrière parce que vous allez entendre un écho parce que ça techniquement maintenant ça passe par des satellites, etc. Voilà, donc la question, comment se débarrasser des fourmis qui attaquent les rosiers en pot, Philippe?
Alors en fait le truc c'est que la fourmi quand elle est dans la nature en pleine nature, c'est les fourmilières, c'est plutôt et le travail des fourmis c'est plutôt intéressant pour le jardinier dans la plupart des cas. Mais le problème dans un pot, c'est que les fourmilières, elles ont des systèmes anti-inondation. Et que le problème, c'est qu'une fois qu'elles ont bien installé leur fourmilière dans le pot, le système anti-inondation, il permet aussi d'empêcher la plante d'accéder à l'eau d'arrosage. Donc, elle s'est évacuée sur les côtés, elles arrivent à drainer l'eau sur les côtés et la plante n'est plus assez arrosée. Et donc, les plantes risquent de mourir de soif. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit le pot est suffisamment pas trop lourd et vous pouvez le mettre dans un seau d'eau, donc vous le mettez dans un seau d'eau pendant une nuit, donc l'eau va monter progressivement, ça va chasser, ça va inonder les fourmis par là où elles ne pensaient pas que l'eau rentrerait, donc elles vont chercher à s'en aller, il faut leur laisser une passerelle pour qu'elles puissent partir, le but du jeu c'est pas de les tuer, c'est de les sortir du pot, donc vous leur faites une passerelle pour qu'elles puissent aller s'installer ailleurs. Et normalement, au bout d'une nuit, toutes les fourmis sont parties. Il ne reste plus qu'à ressortir le pot de son seau ou de sa poubelle d'eau. Et on est reparti pour un second tour. Et il faut faire attention parce qu'en fait, elles s'installent souvent, les fourmis, quand il y a eu un déficit d'arrosage. Hein, on a oublié d'arroser pendant une semaine, 15 jours. On se dit, l'humidité, ça ira bien comme ça. Et c'est à ce moment-là que les fourmis viennent s'installer. Donc, il faut faire attention à ce que les arrosages soient bien suivi, et puis normalement elles ne reviennent pas.
Et la solution. Jacqueline, merci pour votre question. Bonne journée à Saint-Gilles. On fait une pause et puis pendant ce temps-là, vous allez pouvoir reprendre le 02 99 67 35 35. Il y a de la place pour poser votre question puisque Jardin Bleu, c'est jusqu'à 10h.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
I understood loneliness before I what it was. I saw the pills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us.
Sur France Bleu Armorique, Calvin Harris et Ragged Bone Man.
Les éditions Radio France présentent Le temps de méditer de Christophe André. Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? Quels sont ses bienfaits sur notre santé?
Et si nous profitions de l'été pour commencer à méditer?
Avec clarté et simplicité, Christophe André nous explique pourquoi et comment méditer. Il nous initie à l'art de vivre l'instant présent et à la sérénité. Le temps de méditer de Christophe André, un livre CD Radio France.
On me demande parfois, Chantal Latsou, mais comment faites-vous pour échapper aux paparazzi? Heureusement, il y a Akena pour profiter de mon jardin, été comme hiver. Avec leurs nouveaux abris de piscine, tout le monde est ravi. Moins d'entretien pour mon mari. Plus de sécurité pour ma famille. Grâce aux abris de piscine Akena, je suis à l'abri des intempéries et des paparazzi. Akena, la reine des vérandas.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et on retrouve vos questions avec Clémence qui est à Montauban de Bretagne. Bonjour Clémence.
Bonjour messieurs.
Alors Clémence, qu'est-ce qui vous arrive vous aussi? Vous êtes en veille de fourmis?
Oui, je suis en veille de fourmis, elle retourne toute la pelouse, c'est l'horreur. Et je ne sais pas que faire.
Alors elles sont apparues récemment ces fourmis?
Il y a bien un bon mois et demi sûrement.
D'accord. Donc des fourmis, elles sont de quelle couleur? Vous savez pas si c'est des noirs, des rouges?
Je sais pas, rouge ou quoi, je crois.
Ah, rouge, peut-être.
Je crois.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions simples, naturelles, Philippe?
Oui, alors la solution la plus simple, c'est vraiment l'eau. Hein. L'eau est une solution pour énormément de problèmes au jardin. Donc, une fois de plus, c'est une solution simple, relativement peu coûteuse, si on utilise de l'eau de récupération et pas du tout, ou peu d'impact sur l'environnement. Alors, la solution, c'est vraiment de prendre un barre de fer, quelque chose d'assez contendant, de faire des trous, des cônes avec une barre de fer, ça fait des cônes dans la pelouse, et d'inonder en fait les bestioles. Au bout de une, deux ou trois fois qu'on les inonde, elles en ont marre et elles vont ailleurs. Ça n'arrange pas le problème. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi elles sont arrivées là. Et souvent, là aussi, c'est des problèmes de manque d'entretien de la pelouse. La pelouse n'est pas assez vivante. Au lieu d'être un espace, normalement, le sol, c'est un espace vivant. Bah, très souvent, trop souvent, les pelouses sont des espaces morts où il y a juste un pauvre gazon qui essaye de survivre là-dessus. Et du coup, il y a la flore microbienne et fongique du sol est tellement faible que les fourmis peuvent s'installer sans aucun problème et aucune agression. Donc, faut faire attention à ce que la pelouse soit vivante, qu'elle soit bien entretenue, qu'elle soit nourrie, qu'elle soit tondue, pas trop ras, parce que sinon, effectivement, trop ras, la terre chauffe et ça tue tous les petites bébêtes du sol, sauf les fourmis qui savent, qui sont des constructeurs assez géniaux et qui savent construire en protection contre à peu près tout. Et voilà, si on a un sol vivant, si on le massacre pas et qu'on lui donne à manger régulièrement, normalement la pelouse est assez forte pour empêcher les fourmis d'installer.
Voilà donc la solution pour que les petites bébêtes laissent tranquille votre joli gazon, Clémence. Nous retrouvons Huguette, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où?
De Luron.
Luron, c'est à côté d'où, ça?
Mort de Bretagne.
Ah, d'accord. Parce que, j'étais partie plus loin. Moi, je vois pourquoi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Huguette?
Eh bien, nous avons une haie de Troène qui a au moins 20 ans. Et donc, on a les pieds qui dépérissent d'une année à l'autre. On perd au moins un pied par an à deux pieds par an.
D'accord.
Et c'est côte à côte. Hein. Et là, pour l'instant, on en a encore un autre pied au milieu de la haie. Mais pour les années précédentes, c'est toujours un pied qui crève par an.
Est-ce qu'ils sont
côte à côte.
Est-ce qu'ils sont vieux, ces troènes?
Ils ont 20 ans.
20 ouais. ans, oui. Je crois que tout est dit. 20 ans de taille, à raison de au moins deux tailles par an, à peu près?
Oui, à peu près. Oui. Une souvent. Une.
De toute façon, voilà, tout est dit. Les arbustes style troène dans la nature, si on laisse se développer, ils ont une durée de vie, grosso modo, de 60, 80 ans, sans problème. Par contre, à partir du moment... Et puis le volume d'un pied de troène, c'est 4,50 m de haut et 5 mètres de large. À partir du moment où il est taillé à 2 mètres de haut et 50 cm de large, forcément, on consomme énormément d'énergie pour qu'il arrive à survivre, et donc on lui diminue son espérance de vie, et 20 ans, c'est une bonne moyenne, j'irais même, ils sont plutôt sympas, vos troènes, ils ont duré 20 ans, donc c'est pas mal. Alors, faut pas oublier aussi que pendant qu'on les coupe régulièrement, en général, on a tendance à une période où on mettait des produits, des désherbants au pied pour pas qu'il y ait des vilaines herbes, mais dans l'opération, on bousillait le sol, ce qui fait que non seulement le troène, on le coupait en haut, donc on le fatiguait énormément, mais d'autre part, on lui bousillait le sol au niveau des racines, ce qui fait qu'il n'arrivait même plus à se nourrir. Donc, heureusement, ces produits, on n'a plus le droit de les utiliser, Dieu merci, mais en plus, si vous avez une haie de troène jeune, de 4-5 ans, n'hésitez pas à mettre du compost au pied de vos arbres, de manière à ce qu'ils se nourrissent bien, et en se nourrissant bien, eh bien, ils auront une espérance de vie un petit peu supérieure, on pourra monter à 25, peut-être 30 ans avec un sol nourri correctement, mais jamais plus. Hein. Faut pas rêver, ça sera jamais plus.
Voilà, mais en tout cas, bon, le conseil, c'est de les enlever et puis de.
Alors, vous n'êtes pas obligé de les enlever tous, en fait. Hein. Ne faites surtout pas, ne changez pas une haie monospécifique par une autre haie monospécifique. Au fur et à mesure qu'il y a un pied qui disparaît, mettez d'autres plants, mais des plants mélangés, des plants différents. En plus, très souvent, dans les lotissements où il y a un certain nombre de cahier des charges qui impose certaines variétés, mais bon, tout ça s'assouplit. On trouve j'ai vu la semaine dernière un cahier de charges d'un lotissement avec un choix de plantes absolument extraordinaire, et justement des petits arbres, des petites plantes qui n'ont pas besoin, qu'on n'a pas besoin de rabattre tout le temps. J'ai mon préféré qui s'appelle l'Abélia, c'est un petit arbuste qui est adorable parce qu'il ne monte pas plus de 2 mètres, 2,50 mètres maxi, donc c'est des petites tailles qu'on a à faire sur lui, alors que si on met un troène, je vous dis, un troène ça peut monter à 4 mètres, hein. Tout ce qui est les anus, ben, si on les laisse faire, ça monte à 6-7 mètres, etc., etc. Donc il faut choisir des petits végétaux, hein, qui, comme ça, qui auront besoin de peu de taille, et donc le peu de taille qu'on fera impactera peu leur espérance de vie, donc ils dureront plus longtemps.
Eh ben,
surtout si on leur donne à manger.
Voilà, eh ben, on a tout dit. Voilà, Huguette, vous savez ce qui se passe, et vous savez aussi quelle est la solution, quel remède, et comment retrouver une haie peut-être encore plus jolie avec de la diversité. Dominique est à Erquy, bonjour.
Oui, bonjour. Donc moi, c'est une question concernant la taille de raisin. Je réussis très bien depuis des années, je trouve que je réussis bien les chasselas et les muscats, mais j'échoue sur une variété qui s'appelle le perlette. J'ai très très peu de production avec énormément de feuilles. Est-ce que vous pouvez me renseigner?
Est-ce que cette variété...
C'est un perlette. Raisin sans pépins, blanc.
D'accord.
Et... qui mûrit fin juillet, début août.
Alors qui ne
plutôt fin août.
J'allais dire fin juillet, c'est quand même vachement tôt.
Surtout Erquy, quoi.
Bon, non, mais on sait qu'il y a un microclimat, faut pas exagérer non plus. Première chose, quand vous le taillez, vous le taillez de quelle manière?
Je le taille, j'ai essayé plein de façons depuis plusieurs années. En tout cas, je le taille comme les autres au mois de février, en gros, en taille d'hiver.
D'accord.
Et en taille, et jusqu'à présent, en taille d'été, quelques feuilles au-dessus des dernières grappes, et puis je taillais la charpente de remplacement à 8 à 10 yeux, quoi.
Voilà.
8 à 10 yeux?
Oui. Ben oui, parce que les premiers yeux sont très très fins. Pour avoir des gros yeux, des fois j'arrivais jusqu'à 8, 10, oui.
Bah ça, je me demande si c'est pas ça. Et parce que en fait, la vigne, faut vraiment la descendre à 2-3 yeux maxi. Hein.
Donc, oui, mais je me demandais si le perlette c'était pas une taille longue.
Ben c'est pour ça que je vous posais la question, parce que non, justement, le perlette, c'est plutôt une taille courte et 2-3 yeux. Alors, vous pouvez le faire éventuellement sur une taille un petit peu comme les cépages charentais pour le cognac, où c'est une taille à 5 yeux. Par contre, ils éborgnent. On éborgne les yeux du dessous après, une fois qu'ils sont développés, on favorise les deux yeux du haut et avec l'ongle, on éborgne, hein, donc on enlève les yeux du dessous. Mais c'est juste, on laisse un peu plus de bois effectivement pour que la sève abonde un peu plus vers le haut. Et ça permet d'avoir une fructification qui est plus externe, plus extérieure et donc plus facile à récolter. Mais,
parce que les yeux sont vraiment petits, hein, les premiers yeux. Hein.
Oui, mais tant pis, au mois de février, c'est normal. C'est l'afflux de sève que vous allez provoquer avec la taille qui va les faire gonfler. Donc, moi je dirais, j'essaierai même de tailler un peu avant février. J'essaierai de tailler vers le 15 janvier et vraiment à 2 ou 3 yeux, quitte à, je vous dis, éventuellement éborgner l'œil du milieu un petit peu plus tard. Mais je pense que ça devrait bien gonfler, bien démarrer. Je pense qu'elle est trop fatiguée, votre vigne, et du coup, elle ne peut pas donner parce qu'elle fait trop de bois.
Voilà, donc voilà la solution, Dominique.
Bon, j'essaierai, vous nous tiendrez l'année prochaine si c'est bon.
Voilà, vous nous tiendrez au courant. Merci. Vous ne faites pas de vin encore avec vos vignes?
Non. C'est du chasselas, en bonne production,
super.
Je suis content.
C'est bien, tant mieux. Écoutez, continuez. Merci, Dominique. On fait une pause et puis on aura la question de Pierrette tout à l'heure à Saint-Germain-en-Cogles.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique,
02 99 67 35 35.
Et d'ici là, Pascal Obispo sur France Bleu Armorique avec son nouveau titre, ça s'appelle « On n'est pas seul sur la Terre ».
Départemental 106, c'est comme si c'était hier. Un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. Il roulait tranquille, heureux sur sa planète, quand soudain au loin réverbère. Dans les phares du break, filant sous les étoiles, jaillit un éclair. Ses mobilettes en vol plané, en mille morceaux de lui cassés avec la malle foutue en l'air et les projets dans les débris et la poussière au ciel. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde dans nos nuits vagabondes. Départemental 106, c'était comme si à cet endroit précis, les terres sous les lumières jaunies retombaient là sur le sol. Quand la vie ne tient plus qu'à un fil, pas besoin d'être un messie et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire pour perdre aussi la parole. Dans le désordre et l'odeur d'essence, il prit l'homme sans bras dans ses bras, le déposa dans le fossé sans défense, en lui chuchotant ça ira, ça ira. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde dans nos nuits. Et comme un animal se fait la malle, le chauffard s'est barré, c'était fatal, en portant avec lui les rêves et les envies d'un innocent dont il venait de voler la vie. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer.
On n'est pas seul sur la Terre. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Non, il n'y a pas grand monde d'ailleurs à l'avenue de janvier, mais c'est comme ça. C'était Pascal Obispo.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et nous allons tranquillement refermer ce jardin bleu dominical avec la question de Pierrette à Saint-Germain-en-Cogues. Bonjour Pierrette.
Oui, bonjour.
Alors, votre question?
Alors, ma question, c'est que j'ai deux jolis palmiers, mais un qui a des feuilles qui moisissent, qui jaunissent au milieu.
Ouais.
Et on ne sait pas du tout d'où ça vient.
Ils sont en pot, ils sont en pleine terre?
Ah, ils sont en pleine terre, ça fait 3 ans.
D'accord, 3 ans.
Trois ans.
Et jusqu'à présent, tout se passait bien?
Nickel, il y a à peu près 8-10 mois qui sont jaunes au milieu.
Mmh.
Il y en a simplement un, celui qui est plus dans une pente.
Bon. Alors, est-ce qu'il est mal placé? Est-ce que il y a quelque chose qui lui a pas plu? Qu'est-ce qui a pu arriver?
Jaune au milieu, c'est très très inquiétant, parce que je rappelle que les palmiers, ce ne sont pas des arbres, ce sont des herbes géantes, et que les arbres, ils poussent par l'extérieur, hein, la sève, elle arrive par l'extérieur, alors que dans les palmiers, comme dans les bananiers d'ailleurs, la sève, elle arrive, enfin, la plante et la végétation poussent par l'intérieur. Donc, si les feuilles sont jaunes au milieu, ça veut dire que c'est les jeunes feuilles qui sont en train de mourir. Donc, c'est le cœur du palmier qui est attaqué.
Aïe.
Alors, attaqué par qui, par quoi, ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas Madame Soleil, mais il y a de fortes chances qu'ils soient très très mal en point, votre ou vos palmiers. Alors, soit ils ont pris un coup de froid, le pire pour le palmier, c'est un petit coup de froid qui est suivi immédiatement après, ce qui arrive malheureusement souvent en Bretagne, suivi immédiatement après par un petit coup d'un redoux assez rapide, ce qui fait qu'il y a un petit peu de froid qui abîme un peu les tissus, et derrière, avec le redoule, c'est des champignons qui s'installent et qui font pourrir le cœur du palmier. Ce qui fait que les jeunes palmiers, en général, les premières années, ce qu'il faut tous les ans à la fin de l'automne, hein, genre fin octobre, c'est replier toutes les palmes, hein, et bien les attacher en haut pour que justement protéger le cœur du palmier, protéger la pousse de l'année suivante en les fermant bien. On fait ça aussi pour les cordylines dans certains coins. Et s'ils sont vraiment attaqués par le cœur, malheureusement, il n'y a plus rien à faire.
Le cœur est beau. En fait, le cœur, les toutes premières pousses sont très belles. C'est quand il est épanoui que tout d'un coup on voit une feuille qui blanchit. Et celle-ci, elle est brunie, quoi. Alors, voilà.
Donc, quand elles sortent,
Alors, ça, c'est plutôt rassurant, effectivement. Ça voudrait dire que ça, c'est pas le cœur tout à fait. Mais vous êtes, je me souviens plus la commune.
Saint-Germain-en-Cogles.
Ah oui, le Coglet. Donc vous êtes quand même relativement loin de la mer. Donc c'est pas les vents marins. Par contre, ça peut être.
Ils sont placés ouest.
Ouais, c'est ça. Ils prennent du vent tout court et ça peut être ça. Hein, parce que les palmiers supportent pas trop le vent. Hein. Donc faut faire attention en général à les placer dans des coins bien abrités, parce qu'effectivement avec le vent, ça abîme très vite les feuilles. Hein, ça les abîme très très vite. Donc ça peut être ça la cause. Donc il faudrait peut-être essayer de les protéger un petit peu du vent, de manière à limiter ces dégâts-là.
Et peut-être que celui qui jaunit, justement, est plus
dans la pente,
exposé.
Plus au vent,
peut-être.
Ce n'est pas un excès d'eau ni de sécheresse.
Alors, sécheresse, le palmier, ça va, en général, il se débrouille pas trop mal. Un excès d'eau, ça peut être, hein, parce que les palmiers, naturellement, dans leur zone d'origine, ils se poussent là où il y a de l'eau, hein, ils mettent de la chaleur sur la tête. S'ils sont dans des endroits où il y a beaucoup d'eau, mais pas assez de chaleur, ça peut faire pourrir la plante. Mmh. Mais là, pour le coup, ça serait carrément pourri dans une fois de plus. Ouais. Or, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, vu que le cœur est bien vert, vous le disiez.
Voilà, donc merci Pierrette pour cette question, peut-être privilégier l'emplacement, le vent. Et ben on va se dire au revoir mon cher Philippe, avec peut-être quand même un ou deux conseils ou idées avant de se retrouver la semaine prochaine, d'ailleurs une heure plus tôt, hein, il faut le signaler.
Et oui, c'est normal, hein, il fait chaud, donc on se lève plus tôt, c'est
ça.
Logique.
Hein, c'est ça.
Voilà, mais on fait la sieste après, vous inquiétez pas.
C'est pour
donc,
ça.
Je voudrais vous proposer un petit bouquin qui va tout à fait et pour la Bretagne et pour la saison. Ça s'appelle Hortensia et Hydrangea d'aujourd'hui. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Thierry de Riquel, qui est un pépiniériste belge spécialisé des hortensias, ça tombe bien. Mm-hmm. Hein, et donc, qui nous propose les nouvelles variétés, parce que les anciennes, on les connaît bien en Bretagne, ça fait un paquet de temps qu'on les plante et qu'on les apprécie, mais il y a toutes les nouvelles, toutes celles qui ont été obtenues ou celles qui ont été introduites, donc tous les serrata, les paniculata divers et variés et toutes les hybrides, etc. Et bien, ce petit bouquin, il fait le point, alors très très bien documenté, très bien illustré, beaucoup beaucoup de photos, hein, donc vraiment on voit ce que la plante, les intérêts de la plante, donc c'est vraiment un bouquin très sympa. Je crois que de mémoire il y a 500 photos, donc vous voyez il y a de quoi se régaler les yeux. Un bouquin très intéressant aux éditions Ulmer, je rappelle, Hortensia et Hydrangea d'aujourd'hui, Thierry de Riquel, édition Ulmer, ça vaut 24 €. Et ben pour ce prix là et ben vous pouvez y aller, parce que c'est vraiment très très intéressant.
Et ben on va suivre ce conseil et on va se documenter. C'est vrai que les hortensias, c'est tellement joli. joli, ça se plaît tellement chez nous. Il n'y a pas de raison que de nouvelles variétés ne viennent pas s'installer au jardin.
Mon cher
Philippe, rendez-vous donc dimanche prochain, mais attention, pas à 9h, mais à partir de 8h.
Mais je rappelle qu'on a le droit de nous écouter, même si on est encore au lit, c'est pas grave.
Voilà, exactement, on prend les questions, qu'on soit allongé au petit déjeuner, ou déjà dans le jardin à gratter, sans problème. Merci Philippe et à dimanche prochain. Au revoir.
À dimanche.
France Bleu. Le train, avant, c'était ça. Mais c'était avant. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et pour fêter la fin des 4 années de travaux gigantesques à la gare de Rennes, votre radio France Bleu Armorique vous donne rendez-vous ce mercredi 3 juillet pour l'inauguration officielle.
Rennes, ici, Rennes.
Dès 6h, émission spéciale depuis la gare avec les acteurs de cet événement, ceux qui ont réalisé ce chantier hors normes, les voyageurs et vous peut-être. La matinale de France Bleu Armorique à la gare de Rennes, c'est ce mercredi.
Hola Chantal là-dessous, quand est-ce que vous venez dans mon pays?
Oh Fernando, il fait trop chaud chez vous. Je préfère ma terrasse. J'ai équipé d'une pergola bioclimatique à Kena pour réguler la température.
Bueno, mais vous n'êtes pas protégé du vent ni de la pluie.
Si, hombre, ma pergola à Kena a des lames orientables. Venez chez moi, je vais vous montrer. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
Très bon dimanche avec France Bleu Armorique. Il est 10h.